Et le journal vous est présenté ce soir par Soizic Bourg. Bonsoir Soizic.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Aimer et être soi-même sans peur. Plusieurs centaines de personnes réunies aujourd'hui à Paris pour marcher contre l'homophobie. Un rassemblement intersectionnel à l'appel de plusieurs associations. Le reportage de Clotilde Ravier à suivre. Qui, pour succéder à Christophe Castaner, La République En Marche élira son nouveau chef le 29 octobre prochain. Mais les candidats comptent déjà leurs points. Analyse avec Élodie Forêt dans ce journal. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan sort enfin de son silence dans l'affaire de la mort de Jamal Khashoggi. Le président turc a annoncé qu'il allait dire toute la vérité sur les circonstances dans lesquelles le journaliste saoudien a été tué. Les précisions d'Anne Handlauer à suivre. Et puis enfin, la disparition de sœur Emmanuelle. Il y a 10 ans, la petite sœur des pauvres a notamment beaucoup œuvré aux Philippines, on le verra. Dénoncer la violence et faire réagir les pouvoirs publics. Des centaines de personnes sont réunies en ce moment place de la République à Paris à l'appel d'une trentaine d'associations dont l'Inter LGBT et SOS Homophobie. Tout ça en réaction à la série d'agressions homophobes ces dernières semaines à Paris. Hier, 4 personnes ont été interpellées pour avoir tabassé un homme dans le premier arrondissement. Et lundi dernier, un chauffeur de VTC a agressé 2 clients qui s'embrassaient. Les associations estiment que les violences sont en hausse de 15% sur un an dans la capitale. Qu'elle soit suivie ou non d'une plainte. Sur place, le reportage de Clotilde Ravier.
Aimer sans peur, être soi-même sans peur, embrasser sans peur. Autant de slogans que l'on peut lire sur les pancartes des manifestants. Plusieurs centaines sont réunies ici, place de la République. Cette peur des agressions, c'est ce qui motive leur présence ici. Une peur et un ras-le-bol, explique Aurore Fourcy, présidente de l'Inter-LGBT.
On en a marre de se faire casser la figure simplement parce qu'on se balade dans la rue en tenant la main de notre femme. On en a marre de ne pas être considéré comme des vrais citoyens et on en a surtout marre que le gouvernement ne fasse rien à notre égard. Donc aujourd'hui, on veut un vrai budget de lutte contre les discriminations, un vrai plan d'action et effectif. Et on veut que tous les ministères concernés se mettent en action pour pouvoir nous permettre enfin de vivre notre vie normalement.
Interpellation des pouvoirs publics, appel à une prise de conscience pour faire cesser ces agressions. Des agressions qui ne sont pas que physiques ou perpétrées par des inconnus dans la rue. Tisla Meyer, une jeune femme transgenre, est venue ici notamment pour dénoncer la violence des mots de la part de son entourage.
Mon père avait dit que s'il avait un souhait, ce serait que je sois heureuse d'être un garçon, par exemple, une fois. Alors je suis une femme et l'entourage peut très bien, sans le savoir, perpétuer tout un système de micro-agression. Mais genrer une personne transgenre peut lui faire beaucoup de mal, lui demander des informations personnelles peut le faire sentir qu'elle n'est pas aussi humaine que les autres. Et il est important de lutter contre ça.
Lutter en se rassemblant, tous et tout ensemble. Dans la foule, il y avait une femme de 75 ans, Marie-Odile, qui confie « J'aime les femmes et je suis de tout cœur avec les victimes. Nous sommes en 2018, ces agressions ne peuvent plus durer. »
Clotilde Ravel pour France Culture avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Un plan d'action ambitieux pour lutter contre les violences contre les enseignants, annonce de Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner après la publication de la vidéo où l'on voit une professeure d'un lycée de Créteil se faire braquer par un élève. Des faits inacceptables pour Emmanuel Macron. L'arme était en fait un pistolet à billes. Le lycéen de 16 ans s'est rendu de lui-même à la police. Il est ressorti libre de sa garde à vue ce matin. Il doit être présenté à un juge des enfants. Qui, pour prendre la tête de La République En Marche après le départ de Christophe Castaner, à l'intérieur, la Macronie est orpheline. Elle se cherche un chef. L'intérim est assuré par Philippe Grandjean, officialisé ce matin lors d'un conseil à Paris. Mais la situation est provisoire. Dans 6 semaines, le nouveau délégué général sera élu. Ouverture des candidatures le 29 octobre, mais déjà, les aspirants avancent leurs pions. Élodie Forêt.
Comme un air de campagne ce matin dans cette salle au nord de Paris, face à Christophe Castaner prononçant son discours d'adieu.
Il faut être utile et mon utilité personnelle m'amène à m'engager aujourd'hui un peu plus loin de vous.
Plusieurs marcheurs dont les noms circulent pour le remplacer. L'ex-ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, le député Pierre Person ou encore la très médiatique secrétaire d'État Marlène Schiappa en pleine réflexion.
À ce stade, j'ai sincèrement vraiment pas pris de décision. Je cherche à être le plus utile possible à La République En Marche. Est-ce que c'est comme candidate déléguée générale ou c'est autre chose? Je ne sais pas encore.
Marlène Schiappa, un bon profil pour ce militant, elle crève l'écran. Mais pour Patricia et Pascal, tous deux référents en Corrèze et en Haute-Vienne, il faut quelqu'un de plus disponible qui consacre son temps au mouvement.
Quand la personne va parler, il faut bien qu'on dise c'est la personne qui représente le mouvement et c'est un peu compliqué quand vous êtes ministre pour parler sur deux choses en même temps.
Celui ou celle qui doit être à la tête de La République En Marche, doit être quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance et savoir que quand on a besoin, on peut être entendu immédiatement.
Un leader disponible, charismatique aussi, disent cet autre adhérent. Car pour débattre face à Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, il faudra être armé.
Élodie Forêt pour France Culture, La République En Marche toujours en chantier doctrinal. Elle a également tenté de donner une colonne vertébrale idéologique au mouvement. Philosophes, politologues, sociologues étaient réunis à Issy-les-Moulineaux dans un colloque. Tout ça dans la perspective des élections européennes. L'État ouvre une nouvelle enquête pour faire la lumière sur les bébés nés sans bras dans plusieurs départements. Des regards croisés de médecins, d'experts de l'environnement pour comprendre comment ces malformations ont pu arriver. De 2007 à 2014, des cas ont été observés dans l'Ain, en Loire-Atlantique et en Bretagne. Une première enquête de Santé publique France avait conclu un excès des cas uniquement en Loire-Atlantique, mais sans fournir plus d'explications. Agnès Buzyn s'est exprimée sur la PMA. La ministre de la Santé confirme que son extension aux couples de femmes et aux femmes célibataires figurera bien dans le projet de loi de bioéthique débattu au Parlement au premier semestre 2019. Sur la congélation d'ovocytes, elle estime qu'il faut des garde-fous pour les femmes trentenaires. Réponse à la chanteuse Laurie, atteinte d'endométriose. Elle réclamait d'étendre ce droit. Pour Agnès Buzyn, c'est un risque que les femmes congèlent leurs ovocytes, je cite, par confort. 200 millions d'euros, c'est le bilan des dégâts matériels après les inondations meurtrières dans l'Aude la semaine dernière. Ça concerne surtout les habitations et les voitures privées. Hier, le conseil départemental a annoncé vouloir débloquer une enveloppe de 37 millions d'euros pour aider les sinistrés et démarrer les premiers travaux de rénovation. De son côté, la région Occitanie proposera un plan d'investissement de 25 millions d'euros qui sera voté le 16 novembre prochain. En Turquie, après plusieurs jours de silence, Erdogan réagit à la mort de Jamal Khashoggi. Le président turc annonce qu'il révélera toute la vérité dans cette enquête. Il fera une nouvelle déclaration à ce sujet la semaine prochaine. Ce matin, Riyad a donné une nouvelle version sur les circonstances de la mort du journaliste saoudien le 2 octobre dernier au consulat saoudien à Istanbul. L'enquête en Turquie se poursuit avec la convocation chez le procureur de 25 employés du consulat à Istanbul. Les précisions d'Anne Andlauer.
Mardi, en Turquie et au-delà, tous les yeux seront tournés vers le Parlement turc. Le président Recep Tayyip Erdogan a prévu d'y faire une déclaration sur l'affaire Khashoggi, sa première depuis que l'Arabie Saoudite a reconnu la mort du journaliste en défendant la thèse d'une bagarre au consulat qui aurait mal tourné. Que va dire le président turc ? Va-t-il charger Riyad, qu'il s'était forcé jusqu'ici de ménager dans ses rares déclarations sur l'affaire ? Ou va-t-il, sans forcément accréditer la version saoudienne des faits, épargner le régime ? La question est d'autant plus importante que depuis le début, Ankara entretient une communication à deux niveaux. Discrétion officielle dans les discours, accusation officieuse dans la presse. Cette attitude ambivalente suggère que Recep Tayyip Erdogan essaye de profiter des difficultés de Riyad pour obtenir des contreparties. Promesses d'investissement, crédit à taux réduit, contrat énergétique avantageux, le royaume saoudien pourrait aider la Turquie à limiter les effets de la crise qui s'annonce dans le pays. Il y a aussi tous ces dossiers régionaux, le Qatar, l'Égypte, la Syrie, où Turcs et Saoudiens affichent des désaccords et où Ankara attend peut-être des concessions. Mais avec quel levier ? Celui des enregistrements sonores que, depuis plusieurs jours, des officiels turcs anonymes affirment détenir. Des enregistrements qui prouveraient que Jamal Khashoggi a été torturé et assassiné dans le consulat saoudien et discréditeraient donc la version de Riyad.
De leur côté, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni estiment que la version de Riyad n'est pas crédible, elle doit être étayée par des faits. Pour eux, il y a un besoin urgent de clarification sur ce qui s'est réellement passé pour le journaliste. Elle a repris sa route. La caravane de migrants marche à nouveau vers les États-Unis depuis le Mexique. Des milliers de Honduriens, des femmes, des hommes, des enfants sont partis il y a deux semaines de San Pedro Sula, au nord du Honduras. Hier, ils étaient bloqués par les autorités mexicaines. Certains ont réussi à franchir le blocus policier. Un millier d'entre eux sont encore sur le pont à la frontière. Il est question de migrants également à la frontière franco-italienne. Matteo Salvini veut rencontrer son homologue Christophe Castaner pour améliorer la coopération en matière d'immigration. Hier, le ministre italien de l'Intérieur a annoncé l'envoi de policiers pour patrouiller à la frontière française et empêcher les refoulements de migrants. La veille, il avait diffusé une vidéo filmée par un habitant de Clavière montrant une voiture de la police française déposer des migrants côté italien et repartir. L'Italie qui ne cède rien. Elle maintient son projet de budget 2019 et ce malgré les injonctions prévisions de la Commission européenne avec un déficit à 2,4% du PIB en 2019 contre 0,8% pour son prédécesseur. Le budget de cette année sort largement des clous européens. L'Italie ploie déjà sous une dette de 2 300 milliards d'euros, soit 131% de son PIB, le deuxième ratio le plus élevé de la zone euro. Interrogé sur ce budget, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a appelé l'Italie à respecter les règles de la zone euro en matière de déficit. On l'écoute.
Nous avons fait un choix souverain. Enfin, personne ne nous a imposé de choisir l'euro. Mais nous avons choisi souverainement d'avoir une monnaie commune. La contrepartie de ça, c'est que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je dis à nos amis italiens que les règles sont les mêmes pour tous. Je dis simplement que le choix que nous avons fait, tous les États membres de la zone euro, c'est partager une même monnaie, donc partager des mêmes engagements et partager une même responsabilité. On ne peut pas se dire, tiens, tout d'un coup, demain, je vais dépenser des centaines de milliards d'euros supplémentaires, je vais laisser filer mes déficits, je vais laisser filer ma dette, et puis je m'en sortirai mieux. Parce qu'au bout du compte, ça ira mal, et les autres pays devront venir à la rescousse et donc demander le soutien de leurs propres concitoyens. Et ça, c'est pas acceptable.
Il y a 10 ans disparaissait sœur Emmanuelle, la petite sœur des pauvres, allait avoir 100 ans. Elle avait consacré une partie de sa vie à venir en aide aux déshérités, des chiffonniers du Caire au bidonville de Khartoum, en passant par les SDF de France. Son action a été reconnue aussi bien en Afrique qu'en Europe, au Maghreb ou en Asie. Une action qui se poursuit toujours en direction de l'enfance en péril, comme ses programmes d'éducation destinés aux enfants des rues aux Philippines. Reportage à Manille, Eric Bigala.
Les enfants des rues à Manille, on les trouve évidemment dans la rue, et plus précisément ici, dans le quartier commerçant de Divisoria, sous un petit camion. Ils sont là, 7 ou 8, accroupis entre les roues, le carter de plomb et le réservoir. Ils jouent au dé avec comme mise des bouchons de bouteilles plastiques.
C'est votre salle de jeu ici?
Oui.
Ouais, tous les jours?
Oui. Ouais. Ils restent ici toute la journée.
Et vous dormez où?
Le soir. Ici, à Dito? Ça, c'est Edouard. Quand le camion part, il dort là, sur le trottoir.
Il y aurait de 30 à 50 000 enfants des rues à Manille, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, tous ont tout de même appris à lire et à écrire, et ce, grâce à des associations caritatives comme Asmae, sœur Emmanuelle, et son partenaire local, Child Hope. Tous les jours, des minivans, équipés en mini-salles de classe, sillonnent les quartiers de la ville et sur les trottoirs dispensent les quelques cours de base. Vincent est l'un de ses professeurs de rue.
On a des travailleurs sociaux spécialisés qui viennent faire les cours de base d'alphabétisation et de calcul. Et pour les plus jeunes, on a des cours dans l'église de Binando tous les jours de 10h à 13h.
8 associations caritatives philippines travaillent directement à la prise en charge des enfants des rues et de leurs familles à Manille. Des programmes largement financés par l'association Asmae, Marie-Espérance de Cèze en est la responsable pour les Philippines.
C'est la particularité d'Asmae, on s'engage sur du long terme. Donc beaucoup de donateurs vont dire, ok, on vous finance le van, mais derrière un van, il y a un chauffeur, il y a une assurance, il y a de l'essence, il y a de l'entretien. On va donner une priorité aux aspects qui sont difficilement finançables par d'autres bailleurs de fonds.
Depuis mai dernier, Asmae et l'Agence française de développement ont lancé de nouveaux programmes encore plus ambitieux. Ils devraient profiter à près de 25 000 personnes, enfants des rues ou leurs parents, durant les 3 prochaines années.
Eric Biegala, Manille, pour France Culture. Retour en France, le temps de demain. Lundi, grisaille au nord avec des petites gelées attendues sur le nord-est, du soleil dans le sud. Quelques gouttes dans la matinée des Pays de la Loire à la frontière belge. Le matin, il y aura des nuages du côté de la Méditerranée, puis de belles éclaircies dans l'après-midi. Côté température, c'est le grand écart, hein, de 2 à 17 degrés pour les minimales du nord au sud. Les maximales, elles, atteindront 22 degrés.